Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2023 sur TD Actu en audio. Un jour, une pastille, on remonte le classement un peu plus chaque jour et on file du côté de Nashville aujourd'hui avec Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel.
Et bonjour tout le monde.
Bonjour Raoul Villeroy.
Salut tout le monde.
On file du côté de Nashville. Est-ce qu'il y en a un de vous deux que ça inspire peut-être Elvis Presley, la country, tout ça? Non, alors Jean-Michel fait un gros nom de la tête. Alors là, oh, le bon, sourire à l'envers, la totale.
Moi, j'aime bien la musique en général. Donc, ouais, Nashville, ça me parle.
Bon, ça, je sens que Jean-Michel est plus rap marseillais.
Ouais. Ou rap en général, mais ouais, la country, c'est pas mon truc.
Pas une petite banane, tu vois, une petite coupe de cheveux, le petit perfecto, le truc, je dis perfecto, mais tu sais, Elvis, il avait une sorte de veste brillante blanche, là. Je sais même pas en quelle matière c'était fait, ce truc. Je pense que c'est 100% pétrole ou quelque chose comme ça.
Ouais. Ça tirait bien, Jean-Mi, ça te donnerait chaud dans le sud. Ah ouais, non,
c'est justement ça.
On passe donc au Tennessee Titans, messieurs. 7 victoires, 10 défaites la saison dernière. Ça sentait la fin de cycle. Ils ont drafté Will Levis en plus pour... Et puis finalement, toutes les stars sont restées. Pas d'échange hein, pour Neil, pour Derrick Henry. Tout ça, ça reste. Et il y a même DeAndre Hopkins qui arrive. Ça nous fait un petit club de vétérans. Est-ce que... Je vais poser la question polémique tout de suite. Est-ce qu'ils sont favoris de la NFC Sud? Ou alors est-ce qu'ils sont favoris de la NFC Sud, mais il y a 5 ans avec ces joueurs-là?
AFC Sud, mais...
J'ai dit quoi? J'ai dit NFC?
Ouais.
Pardon, donc de l'AFC Sud, oui.
Bah, moi, je dirais non, parce que je pense que les Jaguars, ils sont devant. Mais sinon, oui, quand même, ça remonte le truc. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de DeAndre Hopkins, on aurait pu penser que c'était plutôt une bonne équipe, mais milieu de tableau. Mais quand même, là, t'ajoutes un méga receveur. Voilà, quelqu'un qui court de très bons tracés, c'est-à-dire qu'il se démarque très bien. En plus, on le sait, il a de la colle sur les mains. Donc forcément, rien que cette arrivée de suite, ça améliore toute l'équipe et toutes les perspectives.
Raoul, est-ce qu'ils sont d'un coup? Je suis un peu comme Jean-Michel, j'ai trouvé ça d'un coup beaucoup plus glamour. Il m'ennuyait profondément avant, et maintenant avec DeAndre Hopkins, ça m'intéresse un peu plus.
Ah bah, glamour, oui, ça c'est sûr. Maintenant, je trouve ça presque triste en un sens de dire que ça devient les favoris de la division. Ça veut aussi dire que la division, elle est quand même pas très reluisante. Parce que, bon, ça, c'est effectivement... Alors, je tempérerai un tout petit peu ce que dit Jean-Mi. Je pense qu'avant l'arrivée de DeAndre Hopkins, c'est pas une équipe moyenne. Pour moi, c'est un peu moins que ça, et si tu regardes le groupe de receveurs en particulier, je pense qu'avant l'arrivée de DeAndre Hopkins, c'est le pire de la ligue. Donc oui, d'un coup, tu chopes le meilleur, peut-être le top 3 meilleurs receveurs de cette ligue, et du coup, ça devient plus intéressant. Maintenant, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Voilà.
On peut dire ça, en effet, l'arrivée de DeAndre Hopkins change pas mal de choses. Hopkins, Henry, est-ce que c'est un duo qui, en plus d'avoir une sacrée allure, ils peuvent ouvrir quand même des espaces l'un pour l'autre, j'ai envie de dire. Ça change aussi pas mal de choses pour Derrick Henry, en fait, cette arrivée de DeAndre Hopkins, Jean-Michel.
Oui, mais c'est ça. Et je pense que cette arrivée, ça va aussi équilibrer un petit peu cette attaque. Parce qu'on l'a bien vu. Alors, ils vont continuer à courir, évidemment. Mais l'année dernière, ils ont plus couru que lancé. Je veux dire, c'est assez rare en NFL, les attaques qui courent davantage. Eux, ils ont fait 487 courses pour 456 passes. Donc, ils couraient beaucoup plus. Mais là, du coup, ça va rééquilibrer l'attaque. Et comme tu le dis, ça ouvre des espaces l'un pour l'autre. Parce que forcément, en 2022, tu jouais les Titans. Et ben, forcément, tu mettais 8 joueurs dans la boîte en défense parce que tu savais que ça allait courir. Alors que là, ben, tu es obligé aussi de surveiller le jeu aérien et du coup ça offre des perspectives. C'est aussi là-dessus que cette arrivée d'Hopkins apporte quelque chose en plus.
Après, leur péché originel de l'an dernier, c'est peut-être justement d'avoir laissé filer AJ Brown aux Eagles, qui était leur receveur numéro 1, très costaud. Et ils corrigent en fait avec un an de retard cette erreur en reprenant DeAndre Hopkins, qui au final bon, est un peu plus âgé quand même, mine de rien. Mais pour moi, ils corrigent en fait juste l'erreur qu'ils ont fait l'an dernier en laissant filer AJ Brown. Raoul, pour toi, est-ce que ça peut quand même être une attaque, mine de rien? Voilà, ils ont Derrick Henry a pas encore 30 ans. Je sais qu'il a beaucoup beaucoup été sollicité ces dernières années, mais il a pas encore 30 ans, donc on peut estimer qu'il sera encore un peu là. DeAndre Hopkins, Treylon Burks, du coup le rookie, enfin le pas le rookie, mais deuxième année, a moins de pression avec la présence d'Hopkins aussi. Ça aussi, ça va l'aider. Donc mine de rien, Raoul, ça ressemble à une attaque qui peut faire des choses.
Oui, moi j'adore Derrick Henry et quand bien même il a beaucoup été utilisé, je crois qu'il en a encore un peu sous le réservoir, allez, plus qu'un peu à ce rythme-là en tout cas. Donc je suis pas inquiet là-dessus. J'adore DeAndre Hopkins aussi, hein, donc je suis confiant quant au fait qu'il va pouvoir vraiment faire progresser cette attaque. Du coup, ma petite interrogation, c'est peut-être quand même sur Ryan Tannehill qui avait l'air en perte de vitesse l'an dernier, et donc un peu comme j'ai l'habitude de le faire quand il y a Jean-Michel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Will Lewis, le rookie, est-ce qu'il peut remplacer Tannehill pendant l'année? Est-ce qu'il peut vraiment apporter quelque chose en plus? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Mi?
Alors, apporter quelque chose en plus, je crois pas. Je pense qu'il peut le remplacer si vraiment la saison tourne mal et qu'ils ont un mauvais bilan. Donc, autant lancer un rookie, je pense. Mais sinon, il est pas prêt du tout. C'est quelqu'un de très irrégulier. Après, il a des qualités. Évidemment, il a pas été drafté au deuxième tour pour rien. Il a plutôt un bras puissant. Je veux dire, il est également costaud. Il est également mobile. Il peut faire des choses. Mais on a vu tellement de choses mauvaises aussi chez lui que non, je pense pas. Et puis, il a été pris au deuxième tour. C'est pas pour rien non plus. Il a pas été pris au premier tour. Je pense pas que Will Levis soit le plan pour 2023. Je pense que c'est plus pour 2024, voire 2025.
Il y a toujours ce mythe que c'est un sauvage qui met de la mayonnaise dans son café, c'est lui, non?
Ah oui, c'est ça, c'est
Ouais,
lui,
ah
oui.
ouais, non mais lui
Ça,
aussi.
c'est un délire incroyable, hein, quand même. On n'est pas là pour parler gastronomie, mais je me remets toujours pas de ce truc-là. Et moi, je vais défendre Tannehill parce que Raoul, tu disais qu'il était un peu en perte de vitesse. L'an dernier, il lance que 6 interceptions, mais que 13 touchdowns. J'ai envie de dire que ça, pour moi, c'est toujours un peu le même. C'est juste que l'an dernier, il y avait moins d'armes, comme l'a dit Jean-Michel, il était beaucoup plus tourné vers le sol. Je sais pas s'il est. Il fait partie un peu de cette. Voilà, il est à 35 ans aussi. Il fait un peu partie de ce groupe de 35 ans avec les Stafford, les Wilson, etc. Je pense que voilà, il va pas progresser clairement, mais je suis pas sûr que ce soit un problème si c'est bon autour de lui. Donc si Hopkins est bon, si Henry est bon, j'ai pas l'impression que Tannehill soit un problème particulier. Et c'est pour ça, moi, que je trouve que cette attaque, mine de rien, parce que tu le disais, je crois que c'est Raoul qui disait la division est très faible, etc. Oui, on est sur la huitième pastille là, qu'on enregistre et on a déjà passé trois des quatre équipes de la FC Sud alors qu'on remonte le classement. Donc ça prouve bien que c'était pas glorieux. Il reste que les Jaguars devant. Je sais pas, faudra voir. Les Jaguars, évidemment, sont plus jeunes et sur une meilleure dynamique. Mais dans des matchs de division comme ça va être intéressant quand même de voir. Je trouve que Tennessee est pas hors course. Après, il y a quand même des motifs d'inquiétude. Quel est le premier pour toi, Jean-Michel?
Si tu permets, je voudrais juste dire encore un motif d'espoir. Et pour moi, ce motif d'espoir, c'est quand même la défense. Et parce que ça, ce sont les quarterbacks NFL qui te le disent. Jouer la défense de Mike Vrabel, c'est un calvaire. C'est un calvaire parce que ça joue physique, parce que ça cogne, parce que ça déguise les intentions avant l'engagement et puis ça change après l'engagement. Voilà, c'est vraiment un esprit défensif. C'est pas pour rien qu'il est passé dans l'école, Bill Belichick, etc. C'est vraiment un très très bon esprit défensif et ça, c'est pas anodin. Parce que après, quand tu auras de l'effectif, hormis Jeffrey Simmons, il n'y a pas vraiment un nom quinquant, peut-être le safety Kevin Byard. Mais rien que les schémas défensifs de Mike Vrabel, déjà, voilà, ça t'apporte une défense très, très solide.
C'était une excellente
Après,
défense contre la course hein, l'an dernier.
c'était la meilleure. Ouais, c'était le numéro un.
En fait, tu as tout à fait raison de les mettre là. Moi, je ne les avais pas mis là parce que je les avais gardés pour un peu plus tard. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse les mettre dans les motifs d'espoir. Et tu parles de Mike Vrabel. Je préfère éclaircir ça. Mais on a parlé de Josh McDaniels hier qui vient de l'arbre de coaching Bill Belichick, comme on dit. Vrabel n'en vient pas vraiment. En fait, il a joué pour Belichick, mais il n'a jamais été coach pour Bill Belichick. Ce qui explique peut-être qu'ils réussissent un peu mieux, parce que ce n'est pas toujours une réussite quand on a coaché pour Bill Belichick avant. Vrabel, il a commencé au Texan hein, comme coach des linebackers. Ensuite, il a été coordinateur défensif. Et il est head coach aujourd'hui, mais je suis d'accord avec toi, c'est une défense. Jeffrey Simmons, moi, je trouve que c'est un des joueurs les moins appréciés de la ligue. Parce que justement, on se moquait un petit peu là, de Nashville, le côté pas glamour de la franchise, etc. Et je pense que Jeffrey Simmons, typiquement, fait partie des joueurs qui souffrent de ça. Kevin Byard aussi.
Ouais.
Si, il jouait chez les Jets ou chez les. Je sais, je cherchais des grosses villes, j'allais dire chez les Rams, mais non, chez les Rams, les gens s'en foutent aussi quand même,
Chargers.
globalement. Non, Los Angeles, les gens s'en fichent. Je sais pas
C'est vrai.
pourquoi. Mais non, mais tu vois, à Los Angeles, les gens s'en fichent
Chez
de
les
qui tu
Ni bon, chez les
Non,
Niners.
mais voilà, s'il jouait chez les 49ers, s'il jouait chez les Cowboys, s'il jouait chez les Jets ou les Giants, on dirait que c'est des joueurs incroyables. Je pense que Simmons comment dire, et Bayard, c'est du très, très costaud. Il y a en plus le retour de blessure d'Harold Landry, mine de rien, qui avait été un excellent sacker l'année d'avant, et Kevin Bayard, et Sean Murphy Bunting, pardon, pour compléter Bayard, etc. C'est pas un mec qui va changer ta franchise, mais Sean Murphy Bunting qui arrive de Tampa, ça fait un petit ajout sympa aussi. Ça fera aussi un peu plus de choses à faire pour Vrabel. Et voilà, moi je l'avais en Factor X, je l'aurais dit maintenant, mais parce que, en fait, moi, Factor X au sens où ça peut être une défense top 5 de la ligue, c'est ça que je veux dire. Tu vois, Factor X au sens où elle peut être encore plus forte et elle peut vraiment aller dans l'excellence et aider cette franchise. On revient au motif donc d'inquiétude. Raoul, est-ce que tu avais un motif d'inquiétude évident pour cette équipe?
Alors je l'ai pas mis en facteur X, donc je vais le mettre en motif d'inquiétude. Peut-être que la ligne offensive qui subit beaucoup de changements peut poser un problème, parce qu'on a dit que effectivement voilà, Tannehill a DeAndre Hopkins à disposition, qu'il y a Derrick Henry, mais il faut quand même surveiller ça. Je crois qu'il y a juste Nicolas Petit Frère qui reste. Je suis très content de pouvoir placer ce nom à l'oral. Donc moi c'est ça que je surveillerais, et peut-être éventuellement, tu vois, tu parlais de la très bonne défense. Devant, c'est très fort. Derrière, oui, il y a Kevin Bayard et tu dis l'ajout de Sean Murphy Bunting, mais bon, je crois que c'est quand même moins fort que le front seven, et je surveillerai ça aussi. Je les ai pas mis en facteur X, mais voilà, c'est peut-être les points à surveiller pour moi, ligne offensive et secondary.
Je les avais en point. Oui, pardon, j'ai juste donné une précision à Jean-Michel parce que Raoul parlait de Nicolas Petitfrère. Suspendu pour les 6 premiers matchs à cause de problèmes de
Mais
paris
oui, tu as
sur les
raison, pour
problèmes.
les paris, oui, en plus.
Non, mais on est au mois d'août. Hein, on va inciter nos auditeurs à avoir une petite indulgence pour nous. C'est vrai que des fois, on revient de vacances et il s'est passé des. Il y a des mecs qui sont suspendus pendant qu'on est en vacances et des fois, on a oublié un ou deux. Parce que ça a été actif hein, au niveau des suspensions là-dessus.
Mais oui, il y en a eu
J'ai dû.
quelques-uns là.
Ouais, j'ai dû faire une petite mise à jour quand je suis rentré. Donc Nicolas Petitfrère, il manquera 6 matchs. Et donc Jean-Michel, ils ont autorisé 49 sacs l'an dernier. Moi, j'avoue que je les avais aussi dans les raisons pour lesquelles ils pourraient perdre et qu'ils pourraient tout faire dérailler parce que Ryan Tannehill, il est propre, je l'ai dit, mais si ça s'écroule devant lui, ça peut se compliquer. Si ça s'écroule devant Derrick Henry, il est très bon, mais ça peut se compliquer. Je pense que c'est autant un facteur risque qu'un motif pour lequel ils pourraient perdre, mais elle est essentielle, cette ligne offensive, Jean-Michel.
Oui, mais c'est exactement ça. Moi, en fait, j'ai tout comme Raoul. C'est déjà les deux tackles offensifs, puisque Petit Frère est suspendu. Et donc, les deux tackles titulaires, a priori, ça va être André Dillard et Daniel Brunskill. Donc, ça vend pas du rêve quand même, tu vois. Alors oui, ils ont drafté un lineman offensif au premier tour cette année, mais Peter Skoronski joue guard lors des camps d'entraînement. Et a priori, ils vont le mettre comme au guard. Donc, ça va être un bon ajout, mais c'est pas un tackle non plus. Comme tu l'as dit, ils étaient 28e en sac en 2022. Donc, oui, la ligne offensive, elle fait peur du coup des Tennessee, puis tout comme Raoul, parce que pareil au niveau des cornerbacks. Alors oui, Sean Murphy Bunting, Christian Felton, Roger McCreary, ce sont de bons joueurs, aucun n'est mauvais, mais lequel est vraiment bon? Et oui, là aussi ça manque. Oui, la défense de Mike Vrabel, je veux bien, mais surtout le front seven, surtout comme tu l'as dit, le retour d'Aaron Landry, puis même la signature du linebacker Aziz Al-Shaïr, de Hardenke. Enfin, le front seven, j'ai aucune inquiétude, il va être très bon, mais la ligne arrière, ça va être quand même compliqué. Donc entre la ligne offensive et puis cette ligne arrière en défense, ben voilà deux motifs pour lesquels ils peuvent perdre.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il ne devrait pas se faire allumer dans les airs par Houston et Indianapolis cette année.
Oui.
Hey,
C'est pas le.
Houston, à voir, hein, à voir.
Vite fait quand même. Enfin bon. Factor X, Raoul.
Et ben, du coup, mon facteur X, moi, ça va être le coaching staff, parce que on l'a souvent dit, et c'est un NFL, mais tu as beaucoup d'incertitudes, le coaching staff peut faire pencher la balance du bon côté. Et vous avez mentionné les compétences de Mike Vrabel, en qui effectivement j'ai pas mal confiance. Tim Kelly a été promu coordinateur offensif. Il était déjà dans l'équipe en attaque, donc il connaît la maison. Shane Bowen est toujours là et il a déjà fait du bon boulot. Donc j'ai l'impression que ce trio-là peut vraiment apporter un surplus d'énergie et donc de victoire, hein, puisque c'est ça qu'on veut en NFL. Donc moi, ça va être ça mon coaching, mon facteur X, c'est le coaching staff.
Jean-Michel.
Factor X, alors oui, bah déjà une attaque plus équilibrée, comme on l'a dit tout à l'heure, donc déjà ça peut aider. Et puis ensuite, c'est peut-être aussi le fait que l'effectif, il n'a pas trop changé. Donc du coup, tu as des joueurs qui sont pour la deuxième saison au minimum dans le même système, etc. Et ça peut apporter quelque chose. Et puis allez, une petite dernière comme ça, c'est que quand tu auras de leur calendrier, oui, ils vont jouer l'AFC Nord, c'est compliqué avec les Bengals, les Browns, etc. Et les
Oui.
Ravens. Mais quelque part, le reste du calendrier, ça reste quand même jouable pour une équipe sérieuse et plutôt bien coachée. Donc c'est ça aussi qui peut leur permettre de s'en sortir cette année.
Moi, je l'avais dit au niveau du facteur X, j'avais la défense si elle monte vraiment dans les sommets. Le calendrier, ça va commencer avec un déplacement chez les Saints. Ensuite, ils joueront les Chargers, les Browns, les Bengals, les Colts, les Ravens. Repos en semaine 7. Ah oui, Ravens, c'est match joué sur un terrain neutre. Du coup, j'ai un trou celui-là si c'est Londres ou Francfort, mais c'est un match en Europe. Atlanta, ensuite en semaine 8, Steelers, Buccaneers, Jaguars, Panthers, Colts, Dolphins, Texans, Seahawks, Texans et Jaguars. C'est vraiment un. Attendez, je suis en train de vérifier le Baltimore parce que je voudrais vous
Je
dire
crois que
ça.
c'est Londres parce que ça ne me dit rien dans les affiches de Francfort.
International Series, Tottenham Hotspur Stadium le 15 octobre. Donc ce sera bien à Londres, en effet. Calendrier qui est plutôt abordable.
C'est ça commence
Ouais.
difficilement, mais la deuxième partie, elle est quand même, je vais pas dire facile, il n'y a pas de match facile, mais la deuxième partie du calendrier, il y a quand même beaucoup, beaucoup de matchs qui sont prenables pour les Titans.
Moi, je trouve que déjà que tous leurs matchs de division, voilà, je dis pas qu'ils sont favoris, mais ils sont dedans. Ils sont dans tous les matchs de
Oui.
division. Je pense qu'ils sont favoris contre Indianapolis et Houston, et il y a
Oui.
match contre les Jaguars.
Oui.
Voilà. Alors, je voulais dire en antenne avant, je crois que je suis beaucoup trop optimiste sur les Titans, mais je vais tâter le terrain d'abord. Raoul, tu as combien de victoires?
C'est qu'en préparant, j'ai été très pessimiste, je crois, parce que j'ai mis 6 et en recomptant là, quand tu as fait la
Ouais.
liste, je suis plutôt arrivé à 8 en étant un peu pessimiste. Mais donc, bah ouais, je vais aller sur. Bah, je vais bien aller à 9. Allez, je vais bien aller à 9.
Ok.
Bah, moi, j'avais mis 10 victoires et 7 défaites, hein. Quand même,
Ah,
10
ça va,
victoires, hein.
ça va,
Non, non.
je suis pas trop trop. Parce qu'en fait, moi, je suis parti. Attention, Jeanne. Allez, première enflammade de l'année. 11 victoires, titre de division.
Oh la vache.
Ah, mais c'est possible. T'as deux stars en attaque, une bonne
Ouais, c'est pas
défense et un
impossible.
calendrier abordable. Donc, non, moi, ça me choquerait pas, hein.
Et un très bon coach.
Et un très bon coach. Ouais.
Le titre de division, j'y crois moins parce que tu l'as dit, je crois que les Jaguars ont une meilleure dynamique et j'ai l'impression que entre les deux, peut-être que Jacksonville a l'avantage, mais de fait, oui, ça va se battre avec eux et ça. Après, c'est l'AFC. Je ne sais pas s'il y a une place en wildcard avec 10 ou 9 victoires, donc il vaut mieux un titre de division.
Attends, je vais aller vérifier le titre que j'avais prévu pour l'émission et je vais le changer tout de suite par les Titans, le titre ou jamais. Et préciser juste deux divisions à l'intérieur de l'article, mais pas sur le titre.
Oui. Oh là là, les vues, bien sûr, le référencement.
Le titre ou rien. Non, mais ouais, moi, je suis optimiste, mais j'irai jusqu'à 11. Après, évidemment, c'est des équipes où l'équilibre est fragile. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à un des membres du trio d'attaque, bah là, évidemment, tout de suite, tout se complique et mon pronostic, il passe à la poubelle. Mais voilà,
Est-ce qu'on n'est pas, tu dis le trio d'attaque et du coup d'un coup je me demande, est-ce qu'on n'est pas un peu sur une vibe Steelers, Big Ben, Le'Veon Bell et Antonio Brown, ce genre de délire?
Après, Antonio Brown était plus vraiment dans son prime au moment où il est avec Big Ben et Le'Veon Bell. C'est le moment où ils sont
Ouais,
vraiment
ok.
tous en pleine bourre, quoi.
Ouais, ok, non, c'est faire. Je me posais la question comme ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est des trios très, très éclatants avec un top joueur. Bah, après, non, Big Ben et Tannehill, en fait, c'est moi qui m'emballe. Ok, non, bah, je m'emballe, pardon.
Bon, on est entre 8 et 11, si je comprends
Non, allez,
bien.
9. Moi, je vais dire 9. Voilà.
Ah, ça y est, ça.
On
Ah ouais,
monte dans le train.
j'ai été soft, hein, j'ai titré la dernière danse de Ryan Tannehill, point d'interrogation.
Le titre ou rien, c'est parfait.
Ouais, non, je vais modifier ça. Je vais modifier ça.
Ouais.
Ah,
Tannehill MVP.
Il faut s'adapter.
Non,
Ryan Tannehill MVP. Très bien, on est entre 9 et 11, donc c'est plutôt quand même, on est plutôt sur une des premières équipes, à mon avis, là où on tourne autour des 10 victoires dans les pronostics.
Ah bah, la première positive, je crois, non ?
Ouais, on doit pas être loin de ça. Hein. J'ai pas mémorisé là tous les bilans, mais au bout de 8 pastilles, je pense qu'on n'a pas dû faire beaucoup d'équipes en positif, clairement. Vu les bilans. Voilà en tout cas pour cette preview des Tennessee Titans. Donc la première optimiste, donc la première où on se mouille pas mal et où ça pourrait nous retomber dessus. Mais c'est le jeu. Il y a quelqu'un qui m'avait fait le bilan sur Twitter. Je suis désolé, j'ai plus le pseudo en tête, mais qui disait que sur les pronostics l'an dernier, on avait une marge de 2,8, je crois, d'écart en termes de victoire entre notre prono et le résultat réel des équipes. Alors après, forcément, des fois, je pense qu'il y a des résultats qui doivent nous couler complètement parce que tu as des équipes où il y a une différence de 7 ou 8 qui doivent plomber la moyenne.
Ah bah, mais les Broncos l'an dernier, je pense qu'ils nous ont bien flingué. Ouais.
C'est ça. Je voudrais que je ressorte pour une prochaine émission. Il m'avait donné un peu le détail des plus larges et des plus grosses erreurs, mais c'était intéressant. Donc voilà, on se cache pas. On est là pour donner du prono et pour les Titans, c'est plutôt pas mal, c'est positif. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci beaucoup Raoul.
Merci.
Merci. Et bonne journée tout le monde.
Et bonne journée tout le monde. Et on continue demain, c'est preview avec toi, Jean-Michel, et on retrouvera Grégory Richard. Et je ne me rappelle plus de quelle équipe on parlera. Donc ce sera la surprise, les Panthers, je crois.
Les Jets.
Oh, gros dossier.
Oh là là.
Gros dossier. Gros
je vais
teasing.
Écouter ça avec attention.
Merci tout le monde. À demain.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.